Henri Tessier, contrabajista francés, nacido en 1945, con una larguísima trayectoria profesional, actúa el día 2 de julio en el Festival de Jazz de Guecho, presentando a su quintet, con el que ha grabado un par de discos, Mosaic Man y Strings Spirit. Henri, bienvenido al Club de Jazz.
Henri, bienvenido al Club de Jazz.
Merci beaucoup.
Empezamos, si te parece, por la actualidad, que es esa actuación el próximo 2 de julio en Guecho, con el Assur Quintet, formación con Henri Tessier con trabajo, Sébastien Tessier en el saxo alto, Glenn Ferris trombón, Bojan Sulfikar Pasic en el piano, Tony Gabesson en la batería. ¿Características en Guecho de este proyecto?
Si vous voulez, on commence par l'actualité avec votre concert le 2 juillet à Guecho, avec l'Assur Quintet. Quelles sont les caractéristiques de ce projet, de ce groupe?
Oh, les caractéristiques, vous savez, c'est très simple. C'est un groupe qui existe maintenant depuis 7 ou 8 ans. Et, comment dirais-je, c'est un groupe qui a beaucoup d'expérience. Et les musiciens qui jouent dans cet orchestre-là sont des musiciens que j'ai choisis parce qu'ils ont beaucoup de talent et beaucoup de connaissances et d'inspiration. Et avec eux, je peux explorer et jouer des musiques très diverses et très riches.
Dos discos con esta formación, Mosaic Man y Strings Spirit. Este segundo con orquesta de cuerda, aunque nada que ver con el habitual concepto jazzístico de este tipo de discos, donde la orquesta es un mero acompañante para el lucimiento del solista. ¿Con qué intención incorporas la orquesta para este proyecto?
Vous avez fait deux disques avec ces musiciens, c'est-à-dire avec les musiciens que vous avez présentés à Guecho, Mosaic Man et Strings Spirit, c'est ça?
Oui.
Ce dernier avec une orchestre de cordes.
Oui.
Vous éloignez du concept habituel dans le jazz dans lequel les cordes ne sont qu'un simple accompagnant pour que le soliste brille. Vous pouvez parler un peu de ce projet de Strings Spirit?
Oui, c'est-à-dire que lorsque dans la musique de jazz, on enregistre depuis toujours, à chaque fois que des musiciens de jazz ont enregistré avec des cordes, il y a toujours eu un petit problème parce que les cordes sont toujours, enfin à mon avis, il y a eu de très belles réussites, mais souvent les cordes sont vraiment considérées comme un décor. Or là, dans ce projet, l'idée c'était que les cordes soient comme un élément supplémentaire de la musique, et c'est pour ça que j'ai demandé à Claude Barthélémy d'écrire les arrangements, mais en fait, il a fait plutôt un travail de compositeur, c'est-à-dire qu'il a, comment dirais-je, travaillé comme s'il réinventait de la musique à partir de mes propres compositions. Comme s'il était le sixième membre du quintet et que lui, au lieu de jouer d'un instrument, il jouait et improvisait avec les cordes.
Actúas en Guecho, un festival de los pocos que en Europa en verano se preocupan de algo que no sea jazz norteamericano. ¿Por qué crees que sigue existiendo esa dependencia de lo que allí venga a la hora de programar los festivales?
Vous allez jouer à Guecho, l'un des rares festivals d'été en Europe qui porte un intérêt pour du jazz non-américain. Pourquoi croyez-vous qu'il existe toujours cette dépendance envers la musique d'outre-Atlantique lorsqu'il s'agit de programmer un festival?
Bon, vous savez, la dépendance, elle existe d'une manière naturelle parce que, d'abord, c'est une musique qui nous vient des États-Unis. Enfin, c'est ce que... Maintenant, depuis longtemps, c'est une musique qui ne vient plus seulement des États-Unis, mais du monde entier, et énormément en Europe. Par exemple, en France, le jazz est arrivé au début du siècle dernier, dans les années 1920. Donc c'est une musique qui a tout de suite concerné les musiciens et le public français, par exemple. Mais dans l'esprit des organisateurs, quelquefois, il leur semble qu'il faut beaucoup programmer de musiciens américains. Bon, c'est leur choix. Moi, je suis très heureux qu'il y ait pas mal de festivals quand même en Europe qui programment des musiciens européens. Et c'est très intéressant parce que les musiciens européens, en fait, sont vraiment très créatifs Et je crois que depuis maintenant de nombreuses années, ils ont inventé leur propre musique de jazz.
París fue en su momento gran centro de encuentro con los grandes jazzman norteamericanos. En tu caso, de bien joven tuviste la oportunidad de tocar con grandes como Lee Konitz, Dexter Gordon o Don Cherry. ¿Qué aportó a Henriette Sieg y por extensión a los grandes músicos europeos de entonces ese contacto con los grandes músicos norteamericanos?
París était un centro très important de rencontre avec les grands jazzmen américains.
Oui.
Dans votre cas, vous avez joué avec des musiciens historiques tels que Lee Konitz, Dexter Gordon, Don Cherry. Quel a été l'apport de ce contact pour vous et pour les autres musiciens européens? Et est-ce que ce contact ou ces rapports avec les musiciens américains existent toujours aujourd'hui ou est-ce que les choses ont changé?
Alors, vous savez, c'est difficile de répondre à cette question en deux mots parce que là, on entre un petit peu dans le domaine historique, ce que j'évoquais par rapport à la réponse précédente, c'est-à-dire que les musiciens très très tôt, les musiciens américains sont venus vivre à Paris. Ils sont pas seulement venus donner des concerts ou jouer pour les festivals, mais ils se sont installés, ils sont devenus parisiens. Et pour les musiciens parisiens, c'était formidable de pouvoir travailler avec ces musiciens-là. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de commencer très très jeune dans les clubs parisiens à accompagner ces grands solistes qui s'installaient à Paris ou qui restaient quelques mois. Ces grands musiciens qui se sont installés à Paris et avec lesquels j'ai joué très jeune dans les clubs, vous parliez de Dexter Gordon, de Lee Konitz, de Don Cherry, mais il y avait aussi Bud Powell, Kenny Clarke et beaucoup, beaucoup d'autres grands musiciens avec lesquels j'ai eu la chance de jouer très jeune. Ce sont en fait avec eux que j'ai appris la musique. Ce furent mes maîtres. C'était mes maîtres, c'était ceux qui m'ont... J'ai appris à jouer du jazz avec ces grands musiciens-là. Et pour moi... Et pour les musiciens de ma génération, parce que j'étais très jeune, donc c'était la fin de la grande époque de l'ère bebop, ça a été une chance formidable, mais à partir de là, il a été possible pour nous de développer notre propre sensibilité par rapport à la musique de jazz qui venait de l'Amérique. Et... parce que tous ces grands musiciens-là ne parlaient que d'originalité, n'étaient à la recherche que de l'originalité. Et ça m'a beaucoup marqué. Et pour répondre un petit peu plus généralement, je pense que ça a aussi marqué de la même manière dans les autres pays d'Europe où les musiciens, les grands musiciens américains se sont installés. Voilà.
Yo no sé si se han cambiado las tornas, en este caso son los europeos los que pueden aconsejar de originalidad a los americanos.
Dice que maintenant, peut-être la situación a changé et on trouve plus davantage d'originalité dans les musiciens européens que dans les musiciens américains. Et peut-être c'est maintenant les américains doivent apprendre des musiciens européens.
Ah. Oui, vous savez... Comment répondre à ça? D'une certaine manière, je suis d'accord, mais il y a toujours aussi en Europe des musiciens qui continuent à suivre les musiciens américains. Et moi, je connais... si vous voulez, là, il y a les musiciens américains de qui on peut penser ça, qui sont moins originaux, c'est parce qu'ils essayent de rester dans une sorte de tradition et qu'ils ont perdu un petit peu le sens de l'aventure. Mais, donc ils sont peut-être moins intéressants, moins créatifs. Mais, il y en a beaucoup encore de musiciens aux États-Unis qui continuent à chercher et à trouver des choses et qui continuent d'influencer les musiciens du monde entier. Je pense par exemple à quelqu'un comme Joe Lovano, qui a, changé le langage a fait changer le langage du saxophone et a influencé tous les saxophonistes du monde. Et c'est pas vieux que ça, ça date de... Giulovano est apparu au milieu des années 80. Donc c'est quand même... les musiciens de jazz américains restent quand même très créatifs.
¿Cree, Enrique, que debe ser la música tradicional de raíz la fuente diferencial del jazz en Europa o hay más caminos para conseguirlo? Tiene un buen ejemplo en su grupo como es Bojan Set.
¿Croyez-vous que la musique traditionnelle d'origine folklorique doit être la base qui permet au jazz européen d'être différent ou pensez-vous qu'il y a d'autres façons d'y arriver? Ici, l'exemple de votre pianiste, Bojan Set.
Mais vous savez, la différence qui a... Je crois la vraie différence qu'il y a entre quand les musiciens sont créatifs, hein, parce que tous les musiciens européens ne sont pas forcément créatifs et ne sont pas forcément originaux, mais quand il y a une originalité chez les musiciens européens, il me semble que c'est parce qu'ils assument et qu'ils acceptent leurs origines culturelles. Et qu'ils les incorporent à leur travail de musicien de jazz, comme ça doit être dans le jazz depuis toujours. Depuis toujours, la musique de jazz a été une musique qui a été perméable à toutes les musiques du monde. C'est une musique métisse dès ses origines, et c'est ça qui fait que la musique de jazz est une musique si vivante toujours aujourd'hui. Et c'est vrai que si on regarde autour de soi et que l'on s'inspire de ses origines culturelles, on peut enrichir cette musique de jazz et c'est vrai que ça peut être une source d'originalité.
En tu caso, desde el inicio ya mostraste una cierta atracción por la música de vanguardia, que entonces era el free jazz. ¿Cuál ha sido tu relación con la libre improvisación en todos estos años, Henry?
Dans votre cas, dès le début, vous avez été intéressé par la musique d'avant-garde, qui à l'époque était le free jazz. Quel a été votre rapport avec l'improvisation libre pendant toutes ces années?
Mais vous savez, moi, j'ai eu énormément de chance quand j'ai commencé, parce que c'était l'explosion musicale des années 60. Et il y avait absolument tous les styles de jazz qui était joué à ce moment-là, et l'expérience que j'ai eue avec les musiciens dont on parlait tout à l'heure, et avec mes amis musiciens français, c'est que nous jouions toutes ces musiques-là en même temps. Il m'arrivait de jouer un soir avec Likonitz, le lendemain avec Dexter Gordon, avec des styles très différents, et puis... deux jours après, je jouais avec mon propre groupe et nous jouions du free jazz. Nous improvisions totalement librement. Et si vous voulez, c'était très enrichissant parce que cette musique de jazz, elle était multiple et elle est toujours multiple. Et si on veut vraiment être, un vrai musicien de jazz, on doit quelque part être capable d'en jouer tous les styles. Et... Donc, si vous voulez, pour moi, c'était une chose extrêmement naturelle. Ça s'est fait tout à fait naturellement. Quand, par exemple, je lis des interviews de certains jeunes musiciens de jazz américains qui disent qu'ils vont d'abord étudier le bebop et puis qu'ensuite ils vont continuer à étudier, puis qu'après ils vont s'essayer au jazz plus libre, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut... tout faire en même temps, jouer toutes les musiques en même temps, et c'est comme ça qu'on a le plus de chances d'être créatif.
¿Qué atractivos tiene para el músico la música de libre improvisación y cómo crees, Henry, es factible hacerla llegar al oyente?
Quels sont pour un musicien les aspects les plus intéressants de l'improvisation libre et comment peut-on réussir à intéresser le public?
Ben, vous savez, c'est comme avec n'importe quelle autre forme d'art. C'est-à-dire que la musique et la musique de jazz et la musique totalement improvisée, si elle raconte quelque chose, le public s'y intéresse. Si ce que vous êtes en train de jouer participe d'une histoire artistique, le public s'y intéresse. C'est un peu comme la peinture non figurative. C'est pas parce que un peintre va peindre de la peinture non figurative qu'elle sera forcément moche, qu'elle sera forcément laide, qu'elle sera forcément inharmonieuse et qu'elle sera forcément ennuyeuse. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est question d'équilibre, tout est question de dynamique. Si dans le jazz que j'appellerais figuratif, c'est-à-dire admettons par exemple les standards, si vous jouez ça et que vous ne racontez rien en jouant un standard et que vous jouez ça de manière plate, c'est aussi ennuyeux que la musique improvisée, ennuyeuse quand elle l'est.
Música para cine y televisión, teatro, danza, muchas facetas en una ya larga carrera. Si te parece, hacemos un viaje a los inicios. Dice tu biografía que a los 12 años descubres el jazz. Bueno, ¿cómo se llega al jazz con 12 años?
Vous avez écrit de la musique pour le cinéma, pour la télévision, le théâtre, la danse. Autant d'aspects différents dans une carrière qui est déjà longue. Si vous voulez bien, on revient à vos débuts. D'après vos biographies, vous avez découvert le jazz à l'âge de 12 ans. Comment peut-on entrer dans le jazz si jeune?
C'est très très simple. Justement, c'est pas pour être chauvin, comme on dit en français, c'est-à-dire parler toujours de la France et de Paris. Mais il se trouve que, quand j'étais un jeune garçon, en France, il y avait Sidney Bechet, qui était une très 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 grande vedette. C'est inimaginable aujourd'hui d'imaginer, c'est impossible d'imaginer aujourd'hui à quel point Sidney Bechet était une très grande vedette en France. Ça n'existe pas aujourd'hui un musicien aussi connu. Et il était aussi connu que Edith Piaf ou que Maurice Chevalier, ou c'était absolument incroyable. Partout où il jouait, il y avait un monde fou, il vendait beaucoup de disques, il était très populaire, vous voyez ce que je veux dire? Donc on l'entendait partout à la radio, et c'était de la vraie musique, c'était du vrai jazz, c'était populaire, mais c'était pas forcément de quelque chose c'était pas de la variété, c'était authentique, c'était de la vraie musique. Et en fait, quand on était un jeune garçon, on entendait ça toute la journée, et avec mes petits copains à l'école, au lycée, on écoutait ça, et ça nous plaisait énormément. Et finalement, mes parents me donnaient des leçons de piano, comme ça arrive tout bêtement dans chaque famille. Et voilà, et j'ai commencé à jouer du jazz au piano en écoutant Sidney Bechet avec mes petits copains de lycée. Et c'était pour moi le début, ça n'a jamais cessé, quoi. C'était parti, c'était pour toujours.
El currículum, la biografía de Henri Tessier es tremendamente extensa. Si tuvieras que hacer una selección básica de algunos de tus proyectos, ¿con qué nombres te quedas y qué te aportaron?
Vous avez fait de très nombreux projets différents. Si vous deviez faire une sélection basique de certains de vos projets musicaux, quels seraient les noms les plus importants et que vous ont-ils apporté?
Vous savez, si j'ai choisi les musiciens avec lesquels j'ai construit ces projets, c'est qu'ils m'apportaient à tous quelque chose. Il faut que je les cite quasiment tous. Il y a donc Joe Lovano, Aldo Romano, Dewey Redman, John Abercrombie, Steve Swallow, avec qui j'ai encore joué tout récemment, l'été dernier, tous ces musiciens, Kenny Wheeler. Il y a très peu de temps, au Festival d'Amiens en France, j'ai invité Richard Bonnat, le bassiste camerounais et chanteur camerounais. Ce sont des gens qui tous m'ont beaucoup apporté et avec lesquels, si vous voulez, quand on est compositeur et qu'on a tendance à être un petit peu toujours dans son propre univers, il est nécessaire d'inviter d'autres musiciens pour se découvrir d'autres musiques, pour ne pas rester enfermé dans son propre univers. Et voilà, donc tous ces musiciens-là m'ont beaucoup apporté, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui m'ont apporté, comme Michel Portal, Daniel Humer, Aldo Romano, Louis Clavis, enfin tous les gens avec qui j'ai eu la possibilité de travailler régulièrement m'ont beaucoup apporté. Et puis aussi les musiciens de mes propres formations actuellement, comme Glenn Ferris, Boyan Zulfikar Pachich, Tony Rabesson et Sébastien Texier. Et actuellement, je suis en train de rencontrer d'autres musiciens en France et tout. Vous savez, la musique de jazz, elle est faite de ça, comme je le disais tout à l'heure. Elle est faite de métissage, elle est faite de rencontres. C'est une musique qui ne peut pas vivre si elle est refermée sur elle-même. Et je crois que je suis un vrai musicien de jazz, donc j'essaye de rencontrer des gens qui m'inspirent.
La historia del jazz no se caracteriza precisamente porque sus grupos perduren durante años juntos. En muchos casos se tiende a achacar esto a la falta de apoyos institucionales. Con independencia de esto, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tiene en jazz la estabilidad de un grupo?
En la historia del jazz, no es habitual que las orquestas subsistan longtemps ensemble. Souvent on dit que c'est la faute au manque d'aide des institutions publiques. Mais en dehors de ça, ¿quels sont dans les jazz les avantages et les inconvénients d'avoir un groupe stable?
Alors, tout d'abord, si mes groupes sont stables, c'est parce que je suis moi-même fidèle. C'est très important. Et je crois aux vertus du travail. C'est-à-dire que si on va trop vite et qu'on ne se donne pas le temps de travailler et de rencontrer les gens d'une manière un peu profonde, la musique reste d'une certaine manière superficielle et on n'atteint pas forcément des endroits les plus intéressants. Donc déjà, je suis fidèle aux musiciens avec lesquels j'ai envie de travailler. Ensuite, si les groupes ne durent pas, je ne pense pas, en tout cas pour ma part, que ce soit dû au fait qu'il y ait des subventions ou pas. Les groupes durent parce que si les musiciens ont envie, parce qu'ils trouvent des engagements. Or, la plupart des musiciens de jazz ne sont pas subventionnés directement, en France en tout cas, sauf pour peut-être des projets particuliers ou pour l'Orchestre National de Jazz. Mais ce sont les lieux qui sont subventionnés. Donc en fait, la vie d'un groupe peut être longue si les organisateurs, les promoteurs, les décideurs engagent votre groupe.
En definitiva, en todos los sitios cuecen habas. Normalmente en los medios de comunicación los traductores tienen voz pero no voto, y Diego Sánchez, que además de traductor es un grandísimo aficionado al jazz, seguro que alguna curiosidad tiene para Anki Tessier.
Me gustaría que nos hablase de del proyecto Carnet de Route y Sudafricaine con Romanos Clavis y Texier, con el que dieron dos giras por el continente africano. S'il vous plaît, ça c'est une question personnelle, je voudrais que vous me parliez un peu de votre projet avec Romanos Clavis et le Kérék, avec ces deux tournées que vous avez faites en Afrique et qui ont donné lieu à deux disques.
Alors, ce sont en fait trois tournées. Oui. En fait, nous sommes allés quatre fois en Afrique, mais la dernière fois, c'était juste pour un seul concert. Donc, la première tournée a eu lieu en 1990, la seconde en 93, la troisième en 97. La première était une tournée en Afrique centrale, la seconde en Afrique de l'Ouest. Ça, c'était donc des pays francophones. Et la troisième était en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, dans les pays, pour la plupart, anglophones. Donc, en fait, nous sommes partis avec Guy Le Kérék, qui est qui nous accompagnait pour, en quelque sorte, témoigner de la rencontre de musiciens européens et français en particulier avec l'Afrique, avec le continent africain. Nous avons été engagés par les centres culturels français en Afrique et au départ, c'était une tournée un peu comme les autres tournées dans les mêmes conditions, il n'y avait rien de particulier. Et là, nous avons eu des expériences absolument extraordinaires parce que Guy Le Quéret, qui connaissait très très bien l'Afrique, nous a emmenés dans des villages et des régions qu'il connaissait déjà, où nous avons vraiment rencontré les habitants et où nous avons joué et nous avons eu des émotions extraordinaires parce que les gens recevaient notre musique à la perfection et ressentaient parfaitement ce que nous étions en train de jouer. Et c'était très 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 émouvant parce que en fait nous jouions exactement comme nous jouions habituellement nos propres compositions, notre musique. Et nous avons eu des expériences vraiment qui nous ont marqué pour toujours. Voilà.
Bueno, pues por último ya simplemente esa pregunta de rigor que es los proyectos futuros de Henri Tessier.
Y por finir simplement, ¿cuáles son vos projets d'avenir?
Ben pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Je disais que j'étais en train de rencontrer de nouveaux musiciens à Paris, comme un batteur qui s'appelle Christophe Marguet, un saxophoniste avec lequel j'ai déjà joué qui s'appelle François Corneloup, un guitariste qui très très un jeune guitariste qui joue très très bien qui s'appelle Manu Kodjia, et puis sinon, continuer à composer, continuer à courir les routes. Mais comme je viens de sortir ce disque String Spirit il y a quelques mois, pour l'instant, je n'ai pas de projet d'enregistrement. Je suis en gestación.
Bueno, pues simplemente agradecer a Henri Tessier que haya estado con nosotros en este Club de Jazz y que esperamos que el concierto que den hecho el día 2 de julio pues tenga tan buena acogida como él ha tenido con nosotros.
Y vous remercie, Carlos, vous remercie, moi aussi je vous remercie et j'espère que votre concert à Guecho soit une occasion aussi sympa que cette rencontre qu'on a eu avec vous.
Merci beaucoup, muchas gracias.